tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissant.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Quitter Paris et un métier derrière l'ordinateur pour devenir arboriculteur. C'est le choix qu'ont fait Anja et Antoine Chevalier que je vous invite à découvrir. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre-Presse dans la Vienne. Et je vous amène dans la ferme avec Antoine du côté de Montmorillon.
Alors, on est au Planty ici. Dans la ferme dite de la Noiseraie du Planty, et on est donc une ferme de noisetiers qui est aussi englobée dans la ferme de mes beaux-parents qui s'appelle l'ERL La Gabrielle.
D'accord.
Une terre de céréales et de moutons que vous avez pu croiser en venant
ici. Ouais, c'est ça. Et donc alors vous êtes
Alors moi je suis Antoine Chevalier, tout récemment agriculteur, nuciculteur comme on dit dans le jargon, pour donc faire pousser des noisettes.
Donc tout récemment, parce que vous faisiez quoi avant ?
Alors avant, j'étais géophysicien, c'est-à-dire c'est une profession où en général on mesure les propriétés physiques du sol et on essaye d'en tirer des images de façon indirecte.
D'accord. Et alors quelle avait été la motivation au départ pour faire ce métier-là ?
Géophysicien ?
Ouais.
Ah bah, la science, c'est une grande passion depuis que je suis tout gamin. C'était, on va dire, ma vocation initiale et... Et chemin faisant, j'ai eu envie de faire d'autres choses, notamment à cause des conditions de travail, de la précarité parfois aussi. Je voulais inscrire ma vie dans un projet plus au temps long. Et il y avait un rapport au terrain, puisqu'on sortait beaucoup dehors dans ce métier, que je retrouve un petit peu dans l'agriculture. Et c'est ça un peu qui fait la connexion entre les deux professions.
Alors changer de vie, mais vous n'êtes pas très vieux pour autant hein.
Ah bah, 37 ans quand même.
Ah oui, 37 ans, d'accord.
Ouais, j'ai okay. l'air plus jeune que je ne suis.
Et vous avez fait vous avez exercé votre profession précédente pendant longtemps ?
On va dire de 25 ans à 37, ça fait 12 ans.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Donc vous en aviez déjà fait un peu le tour quand même ou
J'en avais pas fait le tour parce que c'est une profession infinie. Hein, comme beaucoup de professions, on commence, on effleure la surface des choses et puis après on devient de plus en plus expert dans son domaine. J'ai pas fait le tour, mais je suis content de faire une autre activité à temps plein maintenant, mais c'est vrai que de temps en temps, je ressors, on va dire, mes vieilles compétences pour faire des prestations à droite à gauche.
Ah d'accord, vous exercez encore un peu
De temps en temps, mais de moins en moins, ouais, de moins en moins.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ce changement-là ?
Alors ce changement, c'est une longue histoire, alors je peux pas vous...
Alors en résumé, alors,
je veux pas vous embêter, mais ouais, c'est une longue histoire qui s'est construite avec ma compagne. On avait une vie d'ingénieur, ingénieur pédagogique, et moi, ingénieur géophysicien à Paris.
À Paris, donc, d'accord, vous étiez installé là-bas. Vous êtes originaire d'où sinon ?
Moi, je suis originaire de Paris,
d'accord,
ma compagne d'ici, donc c'est ce qui nous a rapprochés d'ici, clairement. Et en fait, on était assez engagés écologiquement et en même temps, on était très attachés à Montmorillon parce que c'est là où mes beaux-parents vivent. Donc on venait très régulièrement le week-end sur l'exploitation agricole de mon beau-père.
Donc ils font eux
Qui font du céréal et des moutons.
Ok.
Et du coup, on avait un engagement, on va dire, écologique qui était montant quand on était dans la capitale, comme beaucoup de gens d'ailleurs, par ailleurs, dans les villes. On a un peu une vision fantasmée de la nature puisqu'on en manque, je dirais. Ouais. Et en fait, à un moment, on s'est dit qu'on en avait marre d'être un peu dans des postures morales sans engagement concret et réel. Et on s'est dit que ça serait bien qu'on reprenne une partie de l'exploitation de mes beaux-parents qui étaient d'ailleurs qui nous ont énormément aidés. Hein. Rien ne se serait fait sans eux, je tiens à le dire. C'est mon chat Barney.
D'accord. Je me demandais ce que c'était au départ.
Rien ne se serait fait sans eux et on a profité de cette opportunité, hein, clairement, parce que c'était ça, pour essayer de comprendre le monde agricole, de se lancer dedans et d'essayer de mettre un peu notre engagement notre idéologie, on va dire, en pratique, plutôt que de faire la morale aux autres. Et on a découvert plein de choses. Et on en découvre encore plein.
Et donc, quand vous avez décidé justement de faire ce changement, vous pensiez quoi? Vous pensiez mouton? Vous pensiez... c'était quoi le... Vous n'êtes pas arrivé tout de suite au noisetier, là?
Assez vite, on est allé sur les arbres pour la simple et bonne raison que, en fait, on ne connaissait rien, clairement. Et on s'est dit qu'on pourrait planter avant et réfléchir ensuite, en fait. D'accord. Parce que les arbres, ça met entre 3 et 5 ans, en tout cas pour les noisetiers, mais pour des plus grands arbres, ça met peut-être 10 ans parfois pour obtenir une production. Donc c'est un gros investissement de trésorerie qui n'est pas suivi de résultats tout de suite. Et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas s'engager sur un projet comme ça, en se disant qu'on allait se former un peu en ramant derrière nos arbres, tout en gardant un peu nos jobs et notre vie précédente, quoi. Et c'est ça qu'on a fait, clairement. Sauf que très vite, on s'est rendu compte que notre idéal... urbain nous laissait pas tant que ça cette opportunité, parce qu'en fait la nature, quand elle est laissée libre et pas très contrôlée, en fait elle essaye de reprendre ses droits très très vite. Donc dans un champ où on a planté, c'était juste avant le Covid, 3200 arbres, on s'est très vite rendu compte que c'était une quantité de travail phénoménale, de rien que protéger les arbres qui sont en pousse, ils sont en compétition avec des adventices qui parfois peuvent faire 3 mètres de haut en l'espace de 3 mois. Donc très vite, on a réalisé qu'on n'allait pas pouvoir garder nos vies d'avant intactes. On allait devoir tout de suite devenir au moins à temps partiel arboriculteur.
Votre projet, au départ, c'était quand même de garder vos métiers et de commencer cette activité-là.
Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, clairement. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on change de vie, littéralement. Donc, on est venu habiter ici.
Ça s'est fait facilement, cette décision? Parce que du coup, c'est radical, quoi.
En fait, c'était plus facile que pour beaucoup de gens, pour plein de raisons. C'est que, on avait une assise familiale ici. Donc, on connaissait l'endroit. Il y avait des maisons disponibles juste à côté, en l'occurrence celle-là. Et aussi, on avait des emplois en télétravail complet.
D'accord.
Donc, moi, je travaillais pour un laboratoire de physique à Lyon, ma compagne pour une entreprise parisienne. Et en fait, on pouvait faire du 100% télétravail sans aucun problème. Et du coup, en fait, on a bougé tout de suite ici en se disant, OK, on va faire des heures sur la ferme après le travail ou avant le travail et on va tenir comme ça. Et là, tout récemment, moi, là, je deviens progressivement à 100%. Arboriculteur. L'idée, c'était de garder une part de salaire jusqu'à ce que les arbres soient en production, ce qu'ils sont maintenant.
Ça y est. Vous les avez plantés il y a combien de temps, là, ceux-là?
On a planté
avant le Covid, c'est ça?
Ouais, juste avant le Covid, okay. En fait, en 2019, décembre 2019. Donc, en fait, pendant le Covid, mais juste avant qu'il arrive en France.
Ok.
Et du coup, c'était après tout l'épisode Covid a accéléré en fait notre venue ici, notre réflexion. On s'est dit que c'était mieux d'être là. Et de prendre part ici à la vie.
Donc pendant quasiment 4 ans, 4-5 ans, là, pas de production du tout, là.
Alors pendant 3 ans, pas de production, ouais. Et là, ça a commencé cette année. Donc en 2023, on a eu nos premiers 600 kilos de noisettes qu'on a vendues un peu tout autour ici.
Comme ça, en circuit court direct?
En circuit court, dans différentes AMAP à Poitiers, et puis dans différents magasins de producteurs, à Chauvigny, Saint-Savin, à l'Île-Jourdain, et puis à Montmorillon.
Et alors, ce premier résultat vous fait espérer de pouvoir en vivre prochainement?
Alors, pas tout de suite, mais l'idée, c'est de prendre là une année et demie pour développer l'activité, essayer de décoincer les endroits où ça coince. C'est beaucoup de travail manuel.
Ouais.
Surtout, en fait, la partie commercialisation, c'est énormément de travail manuel. Aussi la partie arboriculture, mais ça fait partie du jeu.
C'est prévu, quoi.
Mais la partie commercialisation, c'est beaucoup de tri, beaucoup de...
De transport, de choses comme ça.
De transformation, de transport, de logistique.
C'est vous qui les amenez sur les points de vente.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais beaucoup c'est le tri, c'est la casse, c'est le décortiquage des noisettes, etc.
Parce que vous les vendez décortiquées?
Ouais. Ah, oui. Décortiquées et souvent torréfiées, même.
Ah oui.
Donc pour l'instant, c'était très artisanal, donc on triait tout à la main. On avait une machine, par contre, qui nous permettait de trier, de casser, pardon, et de trier. Et derrière, nous, on triait à la main.
Donc là, alors, vous avez combien de d'hectares là, d'arbres?
On a 14,7 hectares, on va dire, pour 6800 arbres environ.
6800, et ça va suffire pour la production que vous espérez?
Alors si on est en vente directe, oui. Donc c'est un modèle qui est un peu intermédiaire entre, on va dire, sur des petites exploitations qui visent l'agroécologie. En général, on est plus sur des plus petites surfaces, 5 hectares, souvent plus diversifiées aussi en petits fruits, etc. Pour les modèles, on va dire, plus industriels, pour la noisette, c'est plus des surfaces de 30 hectares qui permettent d'acheter du matériel agricole lourd pour pouvoir s'en occuper. Mais du coup, c'est une très grosse spécialisation. Nous, on a décidé de faire un modèle intermédiaire entre ces deux univers, 14 hectares, en se disant qu'on allait quand même mécaniser un petit peu, mais pas non plus aussi énormément que ça. Et essayer d'avoir des pratiques quand même agroécologiques, mais avec une production assez importante.
Et alors, de vous confronter à la réalité aujourd'hui, ça correspond à ce que vous espériez justement en matière de respect de l'environnement, c'était ça que vous vouliez, ou il a fallu rabattre un peu des prétentions? Difficile question.
Ouais, question difficile parce qu'elle arrive tôt en fait. Je pense que c'est un projet en progression, clairement. Pour l'instant, on est aussi. Comment dire, on fait ce qu'on peut, on va dire. Ouais. On fait au mieux. Clairement, après, on est content. On a mis un beau couvert végétal qu'on doit apprendre à gérer aussi entre nos arbres. Donc, au début, ils étaient un petit peu plus. On va dire, la terre était un peu plus à nu pendant la première période où on les faisait grandir, où ils étaient en compétition contre les autres espèces du champ. Donc on a planté un beau couvert végétal, on est en train de déployer un peu d'autres techniques. On est en train d'essayer de travailler avec la LPO pour mettre des nichoirs, pour pouvoir faire du contrôle sur toutes les espèces de rongeurs qui maintenant du coup sont dans le champ et qui jouissent de cet environnement favorable pour eux, hein, maintenant.
Qui ne nuisent pas aux arbres pour vous ou
Alors, ils ne nuisent pas aux arbres, mais ils sont en compétition avec nous pour récolter la récolte, clairement.
Il faut passer avant eux, quoi.
Il faut passer avant eux. Donc, y a ces questions-là. On doit se dépêcher. Quand les noisettes tombent, vite, on doit aller plus vite qu'eux. donc voilà, il y a tout un tas d'animaux, d'oiseaux de proie qui commencent à apparaître qui étaient déjà présents, hein, mais qui le sont d'autant plus qu'il y a maintenant encore plus de proies. Donc on espère favoriser et aider cet élan naturel.
Donc ça favorise la biodiversité, là, à chaque fois que vous plantez des arbres, ça aide à ça aussi.
On l'espère. On l'espère. Après, bon, ça reste quand même 19 km de linéaire de la même espèce d'arbre. Donc, clairement, il y a beaucoup de gens qui nous diraient que c'est pas dans les canons de l'agroécologie. Mais on fait un peu ce qu'on peut. L'idée, c'est d'essayer d'en vivre.
C'est des terrains qui avaient quoi avant?
Alors, c'est des terrains qui étaient des champs de céréales.
D'accord.
De mon beau-père. Et c'est là aussi que ça a été un peu déterminant. Il nous a permis de planter avant même qu'on ait accès à la propriété. Donc ça nous a permis de pousser le projet beaucoup plus rapidement. On a eu beaucoup d'aide et ce genre de transition se fait pas sans quand même une assise à la fois, je dirais, financière et à la fois familiale. Et on en a profité énormément.
Là, on a quitté la maison et on est auprès des arbres. Ça, c'est des. Parce qu'ils sont petits, là. C'est déjà des arbres qu'on récolte?
Ouais, clairement.
Oui, ça fait quoi, 1m50 là? Pas plus, hein?
Les premiers, toujours les premiers dans le champ, ils sont toujours un petit peu plus.
Plus petits.
Ouais, ils sont abîmés. Enfin, ils sont un peu plus embêtés par le vent et d'autres éléments extérieurs. Et ils font protection. Au milieu du champ, il y en a qui font 3 mètres.
D'accord.
Déjà. Mais clairement, ceux-là, ils sont déjà en production, même s'ils sont petits. Et puis là, bon, c'est la période où ils sont pas très impressionnants parce qu'ils sont en train de débourrer à peine. Donc, faut imaginer qu'il y a juste quelques bourgeons qui commencent à s'ouvrir parce que le temps a été clément. Mais dès qu'ils sont en feuilles, c'est des trucs assez immense.
Ils peuvent atteindre quelle taille au maximum de leur vie ?
Alors, en général, s'ils sont un peu tout seuls, un peu tranquilles, voire même quand ils sont en compétition, ça peut faire 9 mètres. D'accord. Ça peut être gigantesque. C'est un peu l'équivalent d'un bambou européen, le noisetier.
Et alors, c'est des noisettes bio, là ?
Alors là, c'est de la noisette bio, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc là, ouais, gros pari aussi, parce que quand on est arrivé dans le domaine... En gros, ce qui se dit, c'est que ça n'existe pas un itinéraire technique en bio du fait de ravageurs spécifiques à la noisette, qui sont des charançons, qui sont les balanins de la noisette. Il y a aussi les punaises diaboliques maintenant, qui sont presque plus notre ennemi, on va dire, ou les punaises en général. Et ces deux ravageurs en bio, ils sont très durs à contrer. Nous on a croisé des personnes dans le sud et dans le Lot qui font de la noisette bio quand même. Soit ils vivent avec ce ravageur et en fait ils sortent quand même des récoltes, mais souvent en bio déjà on est habitué à avoir des volumes moins importants et donc on structure nos itinéraires économiques, pas techniques, autour de ça pour aller chercher de la valeur ajoutée, etc. D'où l'idée de faire du commerce local, clairement, et de faire de la vente directe. Évidemment.
Bah, du coup, vous avez déjà ces nuisibles là, vous les avez.
On en a déjà, mais on a choisi cette espèce notamment parce qu'elle est. En fait, elle arrive très tôt. Et le cycle de reproduction du balanin, ils arrivent, ils sortent en gros, et là, ils commencent à se nourrir dans les noisettes qui sont en formation. D'accord. Et si la noisette est formée suffisamment tôt, ils n'arrivent pas à piquer dedans.
D'accord.
Donc l'idée, c'est qu'on a des noisettes qui sont là tôt et qui permettent d'éviter ça. Par contre, le corollaire, c'est qu'elles sont plus sensibles au gel.
Ah oui.
Donc les
jeux. Il faut pas. Faut pas des coups de gel maintenant.
Et donc c'est ça exactement. C'est toujours un compromis. C'est toujours un compromis à faire. À chaque fois, on a des avantages, des inconvénients, et faut vivre avec.
Là, vous avez décidé de vivre avec. Là, aujourd'hui, vous regrettez pas votre décision. Changement.
Aujourd'hui, on est super content. C'est beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant. Ça nous a ouvert les yeux beaucoup aussi sur le monde agricole en général. Et c'est chouette. C'est chouette, ça nous fait évoluer humainement. Et
vous vous sentez plus en accord avec justement vos idées, le paradoxe que vous aviez à Paris de... Là, vous êtes dans le concret et vous avez l'impression de jouer votre rôle justement dans...
Un petit peu plus, c'est un peu plus ancré dans le réel aussi, dans le réel des gens, des vrais gens qui mettent les mains dans la terre, on va dire, dans la terre ou pas que dans la terre hein, d'ailleurs, parce qu'en plus on était des professions intellectuelles 100% sur ordinateur, hein, clairement, donc là ça nous a, enfin déjà ça nous a fait du bien parce qu'on est sorti de la lumière de nos PC et puis ouais, ça nous a fait grandir. Alors, il y a encore des difficultés à dépasser dans le futur et on va voir si on y arrive.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.